n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Eh bien bonjour dans cette nouvelle émission, émission numéro 5, émission 2023, février 2023, deuxième émission de l'année. On est vraiment content de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler de plein de sujets vraiment cool. En tout cas, moi, ça me passionne vraiment. Donc cette première saison, saison numéro 1, vous le savez depuis l'épisode 4, est consacrée eh bien à l'espace, au monde du spatial. Et donc aujourd'hui, on va refaire l'actualité déjà du spatial dans un premier temps. On va parler de mode de propulsion dans l'espace qui sera révolutionnaire. En tout cas, on l'espère, ce sont des gros projets, on vous en parlera tout à l'heure, et on vous parlera également de la Lune. Et puis on fera un petit écart du monde du spatial, mais on restera dans le monde de la science avec l'informatique au service de la biologie, et en particulier certains types d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Vous en saurez plus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, cette émission est présentée par Didier.
Bonjour à tous, bonjour Florent. Ravi de vous retrouver tous sur l'antenne de RBA. Et je suis ravi de vous revoir.
Et en podcast également, en podcast sur les internets, avec de nombreuses plateformes aujourd'hui, hein, et on en aura de plus en plus dans les mois à venir. Voilà. Et également Louise.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous avons un invité de marque, qui est un invité qui nous vient de Clermont-Ferrand et qui nous parlera donc du sujet de l'informatique au service de la biologie. Il s'agit de Romain De Oliveira, qui est chercheur en bioinformatique et qui travaille notamment sur des programmes informatiques pour améliorer nos connaissances en biologie et le traitement d'informations, en particulier les big data. On vous en parlera tout à l'heure. Alors, ce mois de février, l'une des plus grandes actualités, on va dire, au niveau scientifique et au niveau de l'espace en particulier, c'est la comète, C2022E3, ou comète ZTF également, qui passe à côté de la Terre, et vous pourrez l'observer donc, vous pouvez l'observer déjà depuis fin janvier. Elle est passée près de la constellation d'abord d'Hercule, puis maintenant, pendant un certain temps, vous pouviez l'observer vers la Petite Ourse, et désormais, depuis début février, vous pouvez l'observer dans la constellation du Taureau, et à partir du 11 février, vous pourrez l'observer à proximité de Mars, et ensuite, le soir de la Saint-Valentin, elle pourra rendre visite, en tout cas, depuis notre position, on pourra la voir à côté d'Aldébaran, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Donc, ouvrez grand vos yeux et la tête vers l'espace pour ce soir de la Saint-Valentin. En tout cas, j'espère que vous aurez une belle visibilité sur notre ciel étoilé. Ensuite, deuxième actualité, c'était plutôt fin janvier. Hein, des chercheurs ont apparemment observé que le noyau de la Terre aurait changé de sens. C'est-à-dire que le noyau de la Terre est en rotation. C'est une boule qui fait à peu près la taille de Pluton et qui mesure environ 2440 km de diamètre à peu près, et le noyau est situé à 5000 km de profondeur. Donc c'est une immense boule d'alliage de fer et de nickel qui est chauffée à plus de 5500 degrés et qui est liquide et qui tourne sur lui-même. Et cette boule de métal fondu aurait changé de sens. C'est une vraie info scientifique. Pour l'instant, les recherches sont en cours. Nous en saurons plus d'ici quelques semaines. En tout cas, ayez l'oreille attentive. Pour les prochaines émissions, on en reparlera. Depuis quelques temps, vous n'êtes pas sans savoir que l'on découvre de plus en plus d'exoplanètes. Alors, les exoplanètes, ce sont des planètes qui ne sont pas situées dans notre système solaire, mais que l'on découvre proches de notre système solaire. Pour l'instant, on en a découvert majoritairement dans notre galaxie, et il y en a myriades. Et ces exoplanètes, on en découvre de plus en plus, et des plus en plus étranges. On a découvert également des planètes comme TOI 1338b, qui est une planète qui ressemble en fait à Tatooine. En gros, c'est une planète circombinaire, c'est-à-dire qu'elle est en orbite autour de deux étoiles. On a recensé plus de 4000 exoplanètes au total, et il y en a moins d'une vingtaine qui ont deux soleils. Alors, c'est l'exemple de TOI 1338b. Bon, elle est située quand même à 1300 années-lumière de la planète Terre, par la porte à côté, hein, vous ne pourrez pas visiter la fameuse Tatooine, la fausse Tatooine, demain, mais on a découvert donc des exoplanètes de plus en plus insolites. Alors c'est le cas, par exemple, très récemment, de TOI 700e, qui est une planète qui pourrait potentiellement être habitable, qu'on a découverte autour de l'étoile TOI 700, et qui est située dans la zone d'habitabilité, et elle pourrait être recouverte d'eau. Et en plus, c'est une super Terre, c'est-à-dire une Terre, c'est une planète rocheuse située à la bonne distance de la planète qui pourrait ressembler à la planète Terre et qui serait potentiellement habitable, c'est-à-dire qu'elle est dans la zone d'habitabilité. Alors, il y en a eu plein, hein, il y a eu des découvertes de planètes qui auraient une texture de guimauve un petit peu, hein, quelque chose entre le gazeux et puis le solide. Plus on avance dans les technologies, plus on découvre des exoplanètes rigolotes. En tout cas, si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez aller voir le site Eyes on Exoplanets de la NASA, qui est vraiment bien fait parce que vous pouvez visiter la galaxie en trois dimensions, et c'est génial.
Moi, j'entends une exoplanète qui serait en fait un diamant géant. Et toute la planète serait un seul diamant.
Ouais, j'ai entendu parler de ça. Alors, il y a aussi des planètes qui auraient des pluies de diamants, etc. Alors, à vérifier. Là, j'ai pas entendu parler de cette actualité, mais à vérifier. Mais c'est pas impossible. D'après certaines études au niveau de la biodiversité, cette fois, il faut savoir que 41% des espèces rencontrées dans les jardins au printemps ont diminué en 10 ans. C'est-à-dire que les petits oiseaux, c'est un cri d'alarme que je lance ici. Les petits oiseaux, en tout cas ce qui s'appelle donc les passereaux, les mésanges, etc., sont en nette diminution depuis une dizaine d'années, même depuis plus que ça d'après certaines études. Mais en tout cas, c'est formel, depuis 10 ans, on a une large diminution de ces oiseaux, notamment à cause, par exemple, des pesticides qui vont engendrer la mort de leurs proies. Donc également des difficultés à trouver des proies en hiver, etc., ou des zones d'habitat, également des zones de nidification. Donc voilà, pensez à nos petits oiseaux. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article vraiment sympa sur futurascience.com, allez jeter un œil, c'est disponible, c'est gratuit. Nous sommes donc là dans les studios d'enregistrement d'RBA FM et en même temps en live sur TikTok, et on vient de me dire dans le chat que la planète en diamant serait 55 Cancri, une super Terre qui serait en diamant. Donc voilà, merci en tout cas à celui ou celle qui m'a donné la réponse sur TikTok. Voilà. Eh bien Didier, toi tu vas nous parler d'un mode de propulsion dans l'espace qui permettrait d'aller sur Mars, en tout cas sur d'autres planètes, hyper rapidement.
Et oui, tout à l'heure on parlait d'exoplanètes, mais si un jour on veut aller en fait vers ces exoplanètes, il va falloir augmenter drastiquement la vitesse de nos vaisseaux spatiaux. Par exemple, la sonde Voyager 1 partie de la Terre en 1977 pour explorer Jupiter et Saturne. À ce jour, il s'agit du premier engin de l'histoire à naviguer dans le milieu interstellaire. Cette sonde est si lente qu'elle ne pourrait atteindre l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, que dans près de 76 000 ans. Pour, en fait, accélérer un peu la vitesse de nos vaisseaux, en 2018, l'agence spatiale américaine a lancé un challenge aux ingénieurs, et pas des moindres, envoyer une tonne de charge utile sur Mars en seulement 45 jours. Donc, je vais vous présenter la propulsion par laser, un projet de Emmanuel Duplé. L'équipe de chercheurs de l'université McGill au Canada a donc travaillé sur le concept d'une fusée propulsée à l'aide d'un laser pointé depuis la Terre vers le vaisseau spatial. Concrètement, en fait, le vaisseau spatial est équipé d'un réflecteur parabolique gonflable. Ce dernier est incliné vers une chambre de chauffage contenant du plasma d'hydrogène. Donc le principe est simple, le laser chauffe un plasma d'hydrogène qui est expulsé sous forme de gaz et propulse le vaisseau. Grâce au laser, en fait, le noyau de plasma est chauffé à environ 40 000 degrés Celsius. Le gaz circulant autour du noyau est, lui, à environ 1000 degrés Celsius. Il est expulsé par une buse où il exerce une poussée qui propulse le vaisseau vers Mars. Donc, ensuite, il y a des propulseurs latéraux qui servent à maintenir le vaisseau aligné avec le faisceau pendant les 58 minutes où il est propulsé.
Et du coup, Didier, d'où part ce fameux laser et de quoi est-il composé pour pouvoir, si j'ai bien compris, il part de la planète Terre, c'est ça, et il va arriver jusqu'au vaisseau.
C'est ça. Non. Sur Terre, un réseau de lasers infrarouges est projeté pendant 58 minutes sur le réflecteur. Il s'agit en fait d'une multitude de petits faisceaux d'une longueur d'onde d'environ 1 micron chacun. Au total, le faisceau mesure 10 mètres de diamètre et représente une puissance de 100 mégawatts.
Ah oui, d'accord, donc c'est hyper puissant en fait. 100 mégawatts, c'est...
100 kilowatts, c'est ouais. 250 panneaux.
Ah, donc là, ça fait 250 000 panneaux solaires, quoi, en gros.
250 000 panneaux solaires.
Ouais, ouais. C'est ouf, ouais, c'est... Ok, donc là, ouais, bah on remarque qu'on pourrait, grâce à 250 000 panneaux solaires, on pourrait éventuellement aller sur Mars en 47 jours, si tant est qu'il y ait du soleil à cet endroit-là suffisamment puissant.
Il y a besoin que 58 minutes, donc il y a bien un moment où on a une heure de... Si on propulse à midi ou à 13 heures,
ouais, c'est
ça,
bon.
Ça devrait marcher.
Ça devrait aller, quoi. Non mais de toute façon, en plus, lorsqu'on veut propulser quelque chose, j'imagine que le laser, il sera envoyé à un certain moment, que ce soit pile à... Calcul, c'est ce que moi ce qui m'intéresse aussi, ce que je veux savoir aussi, c'est par exemple au niveau de la rotation. Je pense que il faut prendre en compte la rotation de la Terre, l'endroit où est situé le vaisseau, comment on calcule tout ça. Je pense que
J'ai un schéma. Mm. Donc d'abord en fait le vaisseau part en orbite avec une fusée normale. Mm. On shoot le laser, ça le met sur une orbite vers Mars.
D'accord, ouais, ça le met sur orbite après, et ça le propulse.
Et il y a des petits moteurs d'ajustement qui permettent de maintenir le vaisseau aligné avec le laser.
Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, pour qu'il soit bien droit, parce que j'imagine qu'il faut que ce soit pile comme il faut.
Ah bah j'imagine aussi, ouais. Il faut une précision monstrueuse pour...
Ouais. Mais déjà, on peut envoyer des petites charges utiles en peu de temps, avec des moyens qui seront bien moins polluants, du coup, j'imagine.
Là, en fait, l'avantage de cette méthode de propulsion réside dans le rapport en fait, masse-puissance. On envoie en orbite uniquement la charge utile. Si vous... bon, en fait, une fusée, une grosse partie de la fusée, c'est que du carburant.
Oui, c'est ça. Donc là, vu qu'il n'y a pas toute cette charge de carburant, on n'a pas besoin de l'envoyer.
Voilà, on n'a pas de carburant à envoyer. Du coup,
on fait une économie monstre sur le carburant.
Quoi. C'est ça, on fait. Il n'y a pas de carburant.
Carburant, donc énergie fossile en moins, etc. etc. quoi. Et bien aujourd'hui, nous accueillons Romain de Oliveira. Romain de Oliveira qui est docteur en biologie informatique, en bioinformatique. Si je ne m'abuse, tu viens de Clermont-Ferrand, c'est ça ?
Oui, pour les deux.
Bon bah c'est parfait, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Donc en quoi consiste ton boulot et puis quelle était ta thèse aussi puisque tu as une thèse de doctorat et c'est quoi ton boulot à toi aujourd'hui?
Alors juste pour expliquer un petit peu ce qu'est la bioinformatique, donc c'est vraiment le domaine de la biologie où on va utiliser des outils informatiques pour pouvoir traiter des données et répondre à des questions biologiques. Donc en gros c'est un biologiste qui n'est pas derrière une paillasse, mais qui est derrière un ordinateur. Mmh. Et donc là, depuis ma thèse, moi j'ai travaillé dans la recherche académique sur des projets de recherche liés à des thématiques comme l'évolution, l'assemblage de génomes, ce genre de choses-là. Mmh. Aujourd'hui, là, je suis dans le secteur privé où je travaille à la mise en place de pipelines d'analyse en fait, de données biologiques qui vont aider les entreprises privées et aussi les labos académiques à analyser leurs données. Mmh.
Donc le but, c'est d'analyser des données, si j'ai bien compris. Alors c'est quoi ça veut dire quoi des données des données de génome, du coup, si j'ai bien compris aussi. C'est ce que tu avais fait en thèse ?
En thèse, oui. En thèse, c'était des données de ce qu'on appelle génome, donc de l'ADN. Mmh. Mais là, dans le cas du travail actuel où je suis, on travaille vraiment sur des données... qui peuvent être aussi des protéines, qui peuvent être aussi des micro-organismes. Là, par exemple, je pourrais donner l'exemple de la production de levure qui pourrait être ensuite utilisée dans la production de bière. Mmh. Il y a des boîtes qui, justement, produisent ces levures pour pouvoir produire de la bière.
D'accord.
Donc, on va permettre, en fait, à la R&D de ces boîtes-là de mettre en place des outils d'analyse, par exemple, pour suivre l'évolution de la population de levure, en fait, dans le bioréacteur. Ça, c'est un exemple.
D'accord.
Donc en fait, vous avez une grande quantité de données et le but, c'est de se dépatouiller avec tout ça et d'en faire quelque chose de cohérent, en fait. D'en déduire quelque chose de cohérent, de fabriquer des outils, quoi.
C'est exactement ça, ouais.
D'accord.
C'est, pour donner un petit peu une idée, on a tendance à voir la biologie comme étant quelque chose vraiment derrière une paillasse avec des tubes à essai, mais c'est à moitié vrai aujourd'hui. La plupart du temps, on fait des analyses qui sont réalisées sur des plateformes en fait d'analyse. Mmh. Et ensuite, il y a une grosse partie d'analyse de données qui est faite par des scientifiques.
D'accord.
Et c'est des outils statistiques, informatiques et mathématiques, donc qui sont produits par des gens des domaines en question, mais qui sont utilisés par des gens qui ont ma formation en fait, qui sont capables de comprendre le vivant tout en utilisant ces outils informatiques.
D'accord, donc en gros, c'est produire ce qui s'appelle des algorithmes, c'est ça aussi ?
Notamment, ouais.
Notamment.
Alors, ça, c'est un domaine qui est bien spécifique des mathématiques, donc, du coup, qui est appliqué un petit peu dans tout ce qui nous entoure. Hein. Que ce soit des capteurs photos sur les smartphones à l'heure actuelle, les GPS.
Oui, il y en a
partout. En biologie, c'est vraiment le. C'est au cœur de pas mal de choses, notamment pour l'alignement de séquences ADN et de protéines. Par exemple, pour comprendre les relations évolutives entre différents organismes, ça c'est quelque chose qui est fait en fait assez régulièrement dans pas mal de labos. Donc c'est un peu le comment dire ça. Dans l'idée, c'est le Darwin 2.0 quoi. À l'heure actuelle, c'est le séquençage, l'utilisation des ordinateurs et ensuite des algorithmes statistiques qui permettent de lier les êtres vivants. Et donc après, tout un d'autres domaines en biologie ou même dans le médical. Hein. Que ce soit dans la production de médicaments, d'interactions justement de molécules au sein d'une cellule, voir ce que ça va produire. Donc en fait, il y a des algorithmes pour tout et n'importe quoi. Mais dans l'idée, c'est vraiment un algorithme, c'est vraiment un ensemble d'instructions qui peuvent être suivies pour résoudre un problème ou accomplir une tâche, quoi. C'est
d'accord.
Vraiment de la logique pure.
D'accord, donc c'est ouais. Le but, c'est de donner du sens à une grande quantité de données qu'on pourrait pas faire à la main comme ça.
Exactement, ouais. Il y a des gens très intelligents comme des mathématiciens qui écrivent les algorithmes. Et ensuite, on est beaucoup dans tout un tas de thématiques de la science à utiliser ces algorithmes-là pour répondre à nos questions de recherche.
D'accord. J'ai entendu parler du fait que grâce à ces algorithmes en informatique, on pouvait par exemple mimer le vivant, c'est-à-dire faire un programme, créer un programme, si je comprends bien, qui pourrait en gros mimer un organisme vivant et on n'aurait plus besoin par exemple de faire de tests sur des animaux ou des choses comme ça.
Ouais.
Est-ce que c'est possible ça ?
Oui, donc là c'est une thématique. Alors. Bon, si on voulait rentrer dans le détail, on appelle ça la biologie des systèmes. Donc ça existe depuis très longtemps. Hein. Donc à l'époque, les gens, c'était surtout des chimistes, des biochimistes, qui faisaient des études vraiment sur les molécules qui sont capables, en fait, dans notre corps, d'avoir une action qu'on appelle les enzymes. Et donc ces molécules sont capables, en fait, par exemple, de transformer le sucre en une autre molécule qui sera utilisée par le corps. Par exemple, pour courir, pour réfléchir, enfin, c'est ce genre de choses-là. Donc, c'était ça à la main pendant très longtemps.
D'accord.
Donc, comme tu peux imaginer, il y a beaucoup de réactions chimiques dans un corps humain.
Et oui, oui.
Donc, du coup, c'est des problématiques statistiques et mathématiques super compliquées. Donc, c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années avec l'avancée des technologies et des ordinateurs. Où là, il y a des algorithmes ultra performants. Statistiques et mathématiques, en fait, qui permettent aujourd'hui de mimer le vivant. Et donc, c'est même à une échelle, comment dire ça ? On est capable aujourd'hui de reproduire le fonctionnement d'une cellule en mettant, par exemple, en contact, je ne sais pas, moi, d'une molécule donnée, et voir ce que ça pourrait produire d'un point de vue simulation. Et l'idée, c'est d'avoir finalement entraîné avec, d'entraîner ces outils, donc ça peut être fait par machine learning ou par IA. Deep learning pour pouvoir mimer le vivant le plus fidèlement possible. Et effectivement, il y a des lois qui vont passer là à l'échelle européenne d'ici 2030 qui vont réduire fortement la possibilité, notamment chez les pharma, d'utiliser les animaux pour faire des expériences. Donc c'est vraiment un besoin académique et industriel.
un besoin futur et donc ouais. potentiellement également des métiers également qui vont être porteurs, enfin je veux dire des secteurs de métiers qui vont être porteurs dans le sens ouais. où on va rechercher énormément de gens compétents et qualifiés dans le domaine de la bioinformatique. Oui, donc alors tu as parlé de deep learning et de machine learning, donc en gros, alors si je comprends bien, on a une fausse cellule donc sous forme informatique, on peut tester ouais. n'importe quelle, entre guillemets, on peut tester des molécules dessus, voir comment elle réagit, ouais. et ça réagirait comme si c'était dans le milieu naturel, sauf que c'est faux, c'est complètement virtuel. Ouais. Et donc, ces programmes vont apprendre par eux-mêmes. Alors, c'est un peu le système, c'est ça, du deep learning ou du machine learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça?
Alors, en gros, dans l'idée... Le deep learning, c'est vraiment c'est un domaine qui est vraiment particulier de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et c'est basé, alors là pour le coup, sur le fonctionnement du cerveau humain, quoi. Mm. Donc c'est le principe, c'est qu'on a un ensemble de neurones dans le cerveau qui vont fonctionner et qui vont interagir les uns avec les autres.
D'accord.
Donc on a tendance justement, enfin c'est dans le domaine de l'informatique, hein, les gens parlent de boîte noire parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie, on pourrait imaginer, je sais pas, hein, entraîner cet algorithme à reconnaître dans la population les joueurs de basket.
Mmh.
Alors un joueur de basket, c'est quoi? On va lui montrer, ben voilà, voici la liste de joueurs de basket. Donc, généralement, un joueur de basket, il faut entre 1m80 et 2m20.
Mmh.
Je sais pas, il chausse du 48, etc.
Mmh.
Et ensuite, on va lui donner, je sais pas, la liste d'une classe d'élèves ou... d'une ville, et ces algorithmes-là pourraient être capables de dire, ben, il y a un tant de pourcentage de chances que telle personne soit un basketteur.
Basketteur, d'accord.
Voilà, ça c'est un exemple assez, assez clair. Mais après, bon... Après, c'est assez complexe, hein, de toute façon, machine learning, deep learning, ce qui peut différencier en fait ces différents domaines-là de l'IA, c'est si l'apprentissage en fait est guidé ou non guidé.
D'accord.
Est-ce que l'homme donne des données,
ouais.
ou est-ce que finalement l'algorithme apprend par lui-même?
Apprend tout seul, c'est ça en fait.
Ouais.
C'est de l'intelligence artificielle pure et dure, quoi, en fait. Hein. C'est la machine qui peut apprendre par elle-même, ou alors est-ce qu'on va lui donner un jeu de données pour qu'elle puisse apprendre grâce à des aides de l'être humain, quoi. En gros, c'est ça.
Il y a un peu des deux, en fait. Hein.
Ouais.
Après, moi, je suis pas un spécialiste du domaine.
Mmh.
En fait, c'est un truc qui évolue en permanence. Hein.
Mmh.
Notamment là, ces derniers temps, on a pas mal entendu parler de ChatGPT là.
Oui.
Donc il y a un algorithme en ligne, donc n'importe qui peut aller se créer un compte d'ailleurs.
Oui.
C'est en open access, c'est un projet open source. C'est un algorithme en fait d'IA qui est capable de répondre à beaucoup de problématiques. On peut par exemple lui demander écris-moi, je sais pas.
Une chanson,
une dissertation, un morceau de code aussi.
Ouais.
Qui est assez, y a plein d'exemples sur internet. Hein,
ouais, moi je l'ai testé. Je l'ai testé, moi, pour par exemple écrire un cours sur les enzymes en première spécialité SVT. j'ai testé le truc et j'ai comparé à mon cours. Et en vrai, alors il y a quelques petites choses, des tourneurs de phrases, des choses comme ça qui vont pas. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est assez poussé et c'est plutôt bien fait. Donc, ChatGPT, ouais, c'est. Et puis, on peut pas savoir si c'est du fake ou pas. Quand on lit, par exemple, une copie éventuelle qui aurait été faite avec. C'est très compliqué de savoir que c'est... Et puis c'est pas considéré comme du plagiat non plus, puisque c'est quelque chose qui a été complètement inventé.
Ouais. Moi je pense qu'en fait, c'est la révolution qu'on est en train de connaître avec ces nouvelles IA, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, notamment dans l'art, c'est un peu la révolution que les gens ont connue avec Google à l'époque.
C'est ça.
On a une information rapidement, à portée de doigt. Tu te poses une question, t'as besoin d'un morceau de code, donc ça c'est pour les programmeurs. Il y a tout un tas de sites comme Stack Overflow, ce genre de choses-là.
Oui.
Bah là, on est passé au cran du dessus, en fait. On est passé au cran où on n'a plus besoin de taper à la main la recherche, d'aller chercher sur des forums à droite à gauche des informations.
Ouais, on y a accès directement. Ouais.
Voilà. Il faut vraiment le voir comme étant une aide à la... une aide à la recherche.
À la réalisation de travaux, ouais.
Ouais, c'est accessible à tout le monde, hein, pour le coup. Hein.
C'est ça. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle est complètement au service de la science, là, pour le coup, par le biais de plein d'outils informatiques, alors que ce soit ChatGPT, par exemple, ou des algorithmes qu'on va fabriquer pour des sujets de recherche biologique X et Y. Merci Romain, en tout cas c'était très très intéressant. En tout cas, maintenant on en sait plus sur l'avantage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la science. Enfin, ce que je retiens également, c'est que le monde de la bioinformatique, c'est un secteur porteur, c'est un secteur dans lequel on va avoir besoin plus tard d'experts, on va avoir besoin de main-d'œuvre, puisque la demande est forte et l'offre encore assez frileuse, on va dire, hein, puisque soit on trouve des biologistes qui font de l'informatique, ou soit on trouve des informaticiens qui s'intéressent à la biologie, mais des bio-informaticiens proprement dit, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, je pense que tu confirmes, toi, Romain, à ce niveau-là.
Ouais, ça reste quand même un des domaines de la biologie les moins représentés, mais ça change là, petit à petit.
Ça change. Ça commence. Eh bien, merci à toi. Et puis, on te souhaite une bonne journée. Eh bien, Louise va nous parler aujourd'hui de la Lune. La Lune, pourquoi la Lune, Louise ? Et qu'as-tu à nous dire à propos de la Lune ?
Eh bien, la Lune, je voulais en reparler un petit peu parce qu'en ce moment, il y a cette course à la Lune qui a repris entre les États-Unis, l'Europe principalement et la Chine. Mais on en parle beaucoup de cette Lune avec toutes ces nouvelles missions Artemis. Mais finalement, on ne parle pas tellement de la Lune elle-même et de son origine et de son histoire. Donc, moi, je voulais reprendre un petit peu quelle était la naissance et les conditions de la naissance de cet astre voisin qui nous accompagne depuis quand même près de 4 milliards d'années.
Juste, Louise, avant, pourquoi les Américains et les Chinois font la course ? Est-ce qu'il n'y aurait pas juste assez de place pour tout le monde sur la Lune ?
Alors, il y a tout à fait assez de place pour tout le monde sur la Lune. Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, c'est une course qui est plutôt une course technologique et géopolitique. C'est une manière pour les États de montrer leur niveau d'avancement technologique par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment plus une question de bataille d'ego que de place sur la Lune.
Oui, en gros, c'est ça.
Ouais, parce qu'il n'y a pas des endroits spéciaux sur la Lune où il faut arriver le premier, sinon après...
Alors, il y a des endroits spéciaux sur la Lune qui ont plus d'intérêt que d'autres, notamment par leur concentration en eau, leur concentration en certains autres matériaux qui pourraient être intéressants dans le cadre d'une industrialisation, finalement, de la surface lunaire. Donc ça, c'est sûr. Par contre, il y a des lois qui, aujourd'hui, sont assez bancales autour de la propriété lunaire, donc la propriété terrestre lunaire. Comme il n'y a personne qui est vraiment installé. Les lois n'ont pas encore été mises à mal. Ça va être très intéressant une fois qu'il y aura du monde,
du monde
avec
dessus.
Les pieds sur.
Et oui.
Et voilà, avec les pieds dessus. Les hommes actuellement y vont, mais la Lune, elle est là depuis 4 milliards d'années. Et du coup, en fait, la naissance de la Lune, c'est quand même une naissance assez intéressante parce qu'en fait, au tout début de l'histoire de ce satellite, il y a un énorme impact. L'impact d'une protoplanète qui aurait eu la taille à peu près de Mars. Donc tout ça, c'est des théories. Évidemment, on ne peut pas voir dans le passé, mais c'est la théorie la plus commune. Donc une protoplanète de la taille de Mars aurait impacté la Terre de l'époque.
Ah oui.
Et en fait, donc la Terre de l'époque a explosé, finalement, en une espèce de bouillabaisse qui sera compactée et aura formé la Lune. Donc la Lune, en fait, son passé, il est quand même tumultueux. C'est pas une formation géologique toute calme et paisible comme on la voit aujourd'hui.
Là, c'est issu d'un énorme impact qui s'est ensuite re-agrégé, qui a formé une boule compacte des débris, en gros.
Exactement.
Ouais, la Terre et la Lune sont nées en même temps. Parce que la Terre qu'il y avait avant l'impact a disparu, en fait.
On pense qu'il y a des éléments dans la Lune qui viennent de cette Terre originelle.
Et oui.
Donc il y a de grands intérêts aussi géologiques dans la conquête lunaire.
Et oui, pour retrouver les prémices de l'histoire de la planète à cette époque-là, quoi.
Exactement.
L'origine de la planète et pourquoi pas aussi l'origine de la vie. Ensuite, et puis faut savoir que la Lune aussi, grâce à la Lune, il y a les effets de marée, ça conditionne la vie sur Terre de par les marées. Hein, du coup, il y a plein d'activités de la Lune dans les paramètres physico-chimiques qui vont influencer la vie aussi.
Absolument, c'est un astre qui est vraiment très important pour notre biologie actuelle. La vie qui s'est développée sur Terre s'est développée en synchronie avec le cycle de la Lune, donc c'est un astre important qui n'est pas important que pour la conquête spatiale, mais également pour
la vie sur Terre.
De l'histoire et de la vie sur Terre.
Ouais. Alors, quand est-ce qu'on va revenir sur la Lune, du coup ? Ça, j'ai envie de savoir.
C'est toujours une question difficile dans le spatial parce qu'il y a toujours des délais. Ouais. Actuellement, les dates avancées, c'est 2024 pour la première mission habitée vers la Lune. Hmm. Ça ne veut pas dire mettre le pied dessus. Ce sera probablement une mission qui fera juste le tour de la Lune et qui reviendra sur Terre sans allunir. Les premières estimations pour un pied sur la Lune, il faudrait plutôt penser 2026, ce genre de prédictions ont vraiment tendance à déraper.
Alors il y a aussi, il reste sur la Lune, on a énormément de restes humains, enfin il y a des déchets sur la Lune qu'on a laissés de mission spatiale. Il y a également des sacs contenant tout ce que les astronautes ont laissé, il faut bien qu'on évacue nos déchets, nous aussi, humains, si vous voyez ce que je veux dire. Et les sacs qui contenaient donc ces fameux déchets sont également restés sur la Lune. Alors, peut-être que la NASA serait intéressée pour aller voir ce qu'il y a dans ces sacs, notamment, pourquoi pas, certaines populations de bactéries qui pourraient éventuellement être restées du coup, sur la Lune.
Aller récupérer les poubelles qu'on a laissées en 70.
Étudier les poubelles qu'on a laissées
avant 70. Et voir s'il y a encore des choses vivantes
c'est ça.
Dans nos poubelles organiques. C'est très intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, je renvoie les auditeurs vers la vidéo que tu as fait à ce sujet, Exploration, sur ta chaîne.
Exactement, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube Exploration.
Allez voir sur la chaîne Exploration de Florent, ça vaut le coup d'œil.
Et oui, merci Louise pour cette petite page de pub. Merci Louise pour ce sujet lunaire. En tout cas, merci.
Merci à vous.
Merci à toi. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Cinquième émission de février 2023. Tout ce que j'espère, moi, là tout de suite, c'est que vous puissiez avoir les yeux vers le ciel d'ici les prochains jours pour regarder la comète. Et puis, je vous dis à toutes et à tous, au revoir. Et puis, un bon mois de février. À la prochaine. Bye bye.
Bye bye.
Bisous.
Bonne journée.
In which energy is put equal to mass. Furthermore, the equation E is equal to mc², in which energy is put equal to mass.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Après, tout est relatif.